Professeur Pierre Magnard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et vous animez, dans le cadre de Philanthropos, un module de culture gréco-latine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi un tel module est proposé dans le cadre de la formation de Philanthropos ?
Mais des étudiants chrétiens ne peuvent pas ne pas faire réflexion sur ce que leur culture peut apporter à leur foi. Or, s'ils sont chrétiens, c'est sans doute parce qu'ils ont conservé la tradition des apôtres, laquelle tradition porte essentiellement sur le contenu du dogme. S'ils sont chrétiens, c'est aussi parce qu'ils s'inscrivent dans un héritage, dans une transmission des savoirs. Et cette transmission des savoirs, leurs livres, les deux grands vecteurs selon lesquels s'est diffusée à l'origine la pensée chrétienne, ces deux grands vecteurs étant l'un Athènes et l'autre Rome.
Alors, on va voir en détail, justement, c'était aussi l'objet du module, pourquoi Rome et pourquoi Athènes. Il faut peut-être situer un tout petit peu la situation de Rome décadente à l'époque du début du christianisme. C'était pas forcément le meilleur lieu pour s'implanter.
Effectivement, Rome, c'est la nouvelle Babylone. Rome, c'est la part maudite du monde, avec des empereurs tels que Caligula et Néron, avec toutes les turpitudes que l'on y voit, le peu de respect que l'on y manifeste de la personne humaine, cette Rome qui sera, non sans raison, stigmatisée un jour par les luthériens qui verront la bête de l'Apocalypse, eh bien, cela restera quand même le choix de Pierre qui décide d'y vivre et d'y mourir. Et ce sera le choix des apôtres que de bâtir l'Église sur le tombeau de Pierre. Il y a quand même, évidemment, un paradoxe à se dire que c'est peut-être l'héritage le moins spirituel lorsque Athènes paraît si claire, si lumineuse, si sainte, si radieuse. Pourquoi Rome ? Eh bien là, j'essaierai d'en donner quelques raisons. Rome, c'est la loi. Rome, c'est le droit romain. Rome, c'est l'institution. Rome, c'est donc, vous le voyez déjà, tout un héritage. Et cet héritage est quelque chose qui va pouvoir être repris par l'Église naissante, l'Empire. L'oikumenege, ce qui veut dire, au fond, la totalité des terres habitées. Celle que couvre l'Empire. L'Empire, ce vaste lieu de communication, à l'intérieur duquel la citoyenneté diffuse, car réservée au départ à Rome et à ses alentours, elle va bientôt s'étendre à la Gaule cisalpine, elle va bientôt remonter vers l'Helvie, aller en Germanie, et se répandre, se diffuser jusqu'aux Carpates, à travers la Pannonie. Cette conception d'un citoyen de Rome qui est citoyen du monde ne peut pas ne pas préfigurer ce que sera la catholicité chrétienne.
Le choix de l'Église, un peu risqué apparemment, de s'installer à Rome, c'est d'utiliser cette structure de l'administration romaine comme étant une base pour l'organisation de l'institution Église.
Oui, on peut dire que la Rome païenne, la Rome antique, la Rome impériale fournit à l'Église naissante sa logistique. Elle lui fournit sa trame sur laquelle le christianisme n'aura plus qu'à broder. On voit donc comment elle pourra s'appuyer sur le caractère institutionnel de cette Rome. Mais Rome, ce n'est pas seulement une logistique, ce n'est pas seulement une intendance. C'est aussi ce qui conçoit, à travers la belle figure de Cicéron, une communis humanitas. Ce qu'il faut traduire non pas par humanité commune, mais par humanité partagée. Or, est-ce que nous n'avons pas là une préfiguration de la catholicité dans ce partage d'humanité? On peut donc dire que Rome, historiquement, s'imposait et que la conjoncture que représente ce premier siècle voulait que de Rome irradia toute la pensée chrétienne. Mais ce choix, cependant, ne connut pas toujours des moments heureux. Il faut faire état des crises. Rome sera en butte à l'agressivité des princes. Faut-il rappeler comment les empereurs allemands, qui se disent romains germaniques, voudront contester à Rome son pouvoir et vont combattre la papauté? Je passerai sur les suites de ce combat qui connut des jours tout à fait divers, mais je ferai mention de ce que put représenter le moment de la refondation après l'exil à Avignon, quand les papes Eugène IV, Nicolas V et Pie II décidèrent de fonder ou de refonder la Rome chrétienne sur la Rome païenne. Or, nous nous trouvons là devant un paradoxe tout à fait étonnant qu'il faut toujours réexpliquer. Rome, je disais tout à l'heure que c'était une nouvelle Babylone. Ce fut, pour le meilleur par le passé, la cité du paganisme. Et cette cité du paganisme, elle va, en quelque sorte, être l'objet de toutes les attentions des trois papes de la Refondation, Eugène IV, Nicolas V et Pie II. Ils vont inventorier tous les sites archéologiques. Ils vont tenter de relever les ruines des grands édifices. Ils vont vouloir que rien ne soit perdu de ce passé. Et l'on peut alors se demander s'il n'y a pas quelques paradoxes à fonder la Rome chrétienne sur la Rome païenne. Or, ce que je découvre dans l'œuvre de ces grands papes, c'est que la fondation se comprend dans un retournement du geste inaugural. Car, somme toute, ce n'est pas la Rome païenne qui porte désormais la Rome chrétienne, c'est la Rome chrétienne qui porte, qui fonde, qui justifie, qui interprète et qui accomplit tout ce qui était en promesse dans la Rome païenne. Et là, je reprendrai l'image de l'édifice. Cette super edificatio, comme disait Léon Baptiste Alberti, que j'établis sur le fondus, sur le terrain, sur le foncier, sur le sol. Et ce que montrait Alberti, c'était que je ne m'appropriais véritablement ma terre ou mon foncier que par la construction que j'édifiais sur lui, à tel point que c'était cette super édification qui était fondatrice à l'endroit du patrimoine ou de l'héritage que j'avais voulu ainsi, en quelque sorte, consacrer. Ce que font les papes par la super édification de Saint-Pierre à Rome, c'est de manifester qu'ils ont pris en charge toute Rome jusqu'à la Rome païenne des origines, pour la porter, en quelque sorte, en montrant par là que cette Rome inaccomplie, inachevée, que cette Rome qui n'avait pas encore connu son plein aboutissement, enfin, dans la chrétienté, s'accomplissait. Au fond, notre Rome pontificale nous consacre en héritier de tout le passé latin. Mais l'héritier n'est pas celui qui se contente de recevoir, il est celui qui s'approprie par son travail l'oiri qui lui a été imparti. De la même façon, nos papes se sont appropriés tout le passé latin et se le sont appropriés en le refondant sur la vie chrétienne.
On peut imager aussi cette démarche avec ce qui se passe pour chacun de nous au moment de la conversion, quand le Christ débarque, on pourrait dire, dans notre vie. Il ne fait pas abstraction du passé païen qu'on a pu mener, mais il le prend en charge et il l'assume totalement.
Il est certain que si les convertis devaient vivre leur conversion comme une rupture d'avec le passé, ce serait un geste sacrificiel au-delà des limites de l'humain que l'on demanderait aux néophytes. Je pense que la conversion est, de la part du converti, une manière de prendre en charge son passé quel qu'il fût et de lui donner enfin le sens plein qu'il méritait d'avoir, de telle sorte que quel qu'il fût ce passé revit, transformé par la grâce.
Alors, professeur Magnard, donc on comprend un petit peu mieux pourquoi Rome, avec en particulier toute cette infrastructure et à l'image donc de l'Église qui doit avoir ce rayonnement mondial. Maintenant, donc on parle de culture gréco-latine dans ce module. Pourquoi Athènes ? Est-ce que ce n'est pas un peu un préjugé de lettré qui trouve que c'est bien d'aller plonger dans les racines des grands philosophes grecs ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour comprendre le christianisme ?
Oui, quand aujourd'hui on veut défendre la culture antique en faisant valoir l'intérêt spirituel qu'elle peut avoir, on se voit taxé d'illettantisme ou de passéisme et on se voit objecter que la connaissance des lettres grecques n'est peut-être pas indispensable à l'intelligence de l'Évangile. À cela, je répondrai que si je considère devoir mener une réflexion sur les lettres grecques et leur rapport à la pensée chrétienne, c'est parce que d'abord, historiquement, le vecteur grec a été absolument essentiel. C'est parce que la nécessité de passer par les Grecs nous a été enseignée par les Juifs eux-mêmes. A-t-on oublié que l'exégèse allégorique qui devait dépasser le sens littéral de l'écriture pour atteindre à son acception spirituelle a été illustrée par un juif du 1er siècle qui s'appelait Philon d'Alexandrie. Et ce que l'on ne sait pas toujours, car on connaît bien l'œuvre de Philon, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que l'œuvre exégétique de Philon avait été précédée par 2 siècles d'exégèse allégorique menée par des rabbins parlant grec qui, à la lumière précisément des techniques d'investigation ou d'herméneutique proposées par l'école grecque, avaient relu déjà toute la Bible. Donc, ce que j'essaie de trouver, c'est ce vecteur qui, d'une façon toute différente du vecteur romain, permis la propagation et la diffusion de la pensée, de la spiritualité et de la vie chrétienne. C'est ce vecteur qu'il s'agit de reconstituer en nous demandant s'il est encore opérationnel aujourd'hui. Et ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que si Athènes apparaît comme un vecteur porteur, c'est aussi parce que la spiritualité athénienne, l'intellectualité, le goût des lettres, les commentaires des textes, la culture, constituaient, si je puis ainsi dire, un climat pour la grâce susceptible de permettre son éclosion et son développement. Il me semble qu'on se trouve là devant un de ces phénomènes que l'on a voulu désigné d'un mot que je n'aime pas beaucoup, mais on n'en a pas d'autre dans notre langue, pour dire cela, le phénomène d'acculturation. Le christianisme s'est parfaitement développé en terroir athénien, il s'est parfaitement développé en milieu hellénique, comme si la pensée grecque lui était en quelque sorte favorable. À tel point que je me suis interrogé personnellement sur la relation qu'il y avait entre le christianisme et les penseurs majeurs de l'hellénisme. Et essayant de relire et de réinterpréter la grande patristique des 2e au 6e siècle, de Justin à Denis, je me suis rendu compte la dette immense que tous ces penseurs, même Tertullien, à son corps défendant, avait à l'endroit de l'hellénisme, avait particulièrement à l'endroit de la pensée de Platon. Et c'est cela qui m'a conduit à suggérer une image, celle de la greffe. L'arbre ou le rameau judéo-chrétien s'est voulu greffer sur une souche hellénique. On a gardé de l'hellénisme sans doute que la souche. On a coupé hardiment toutes les branches, comme pour sacrifier tout reste de paganisme. Mais on a fait foi dans la souche même, dans ses capacités, dans ses virtualités, dans ses puissances, comme si cette greffe aurait le mérite non seulement de donner à l'arbre judéo-chrétien une vitalité neuve, différente de celle qu'il aurait eue s'il était resté sur sa souche primitive, mais on va lui permettre à ce rameau judéo-chrétien d'actualiser toutes ces latences qui dormaient dans le fin fond des racines grecques et que la spiritualité grecque avait été incapable de mener à jour et de faire aboutir. En quelque sorte, le christianisme, ce serait la chance de l'hellénisme, le christianisme, ce serait l'hellénisme sublimé, le christianisme, ce serait l'hellénisme porté à son plus haut développement. Et là, je pense justement à ce beau mot de Pascal quand il nous parle d'un Platon pour disposer au christianisme. Je pense à l'usage sans cesse repris par les pères, notamment par Eusèbe dans sa Preparatio Evangelica, des textes de Platon, puisque je me permets de le rappeler, la Preparatio Evangelica en sa dizaine de volumes est essentiellement un ensemble de textes choisis et commentés et un ensemble où les textes de Platon sont tout à fait en honneur. Certains textes comme le final de l'Alcibiade ne nous fut connu longtemps que par Eusèbe, ce qui veut dire que c'était bien une valeur catéchétique qu'on demandait aux grands textes grecs qui préparaient à la vie chrétienne et sensibiliser à cette annonce de la rédemption. Et si je puis tabler sur une telle greffe, alors je pense que il faut avoir le courage d'aller encore plus loin et de considérer que si l'arbre chrétien réactualise des latences qui se trouvent dormantes au fin fond des racines de l'arbre grec, c'est que il y a déjà explicite dans les textes grecs quelque chose qui annonce le Christ. Je pense à la belle image d'un Marcille Ficin qui, au XVe siècle, dans ses commentaires de Platon, va faire mention de ce que peut représenter pour lui la figure de Socrate. Socrate, dit-il, c'est l'adumbratio Christi. Traduisons, l'ombre d'un Christ qui vient, qui s'avance, mais que nous ne voyons pas encore, mais qui, auréolé de lumière, projette en avant de lui son ombre, et c'est cette ombre que nous voyons. Socrate, l'ombre du Christ. L'ombre, ce n'est pas la figure. La figure du Christ, nous en laissons le privilège à Jean-Baptiste. Mais l'ombre du Christ, s'il est permis de donner cette importance à Socrate, c'est le penseur païen. Socrate, ombre du Christ. Socrate, ombre du Christ, il l'est dans sa vie, il l'est dans son enseignement, il l'est dans sa mort. Socrate, ombre du Christ, il l'est dans son humilité, qui l'amène à considérer que l'on ne saurait accéder à la vérité sans qu'un Dieu ne nous la communique. Rappelez-vous les belles pages sur le démon de Socrate dans l'Apologie de Socrate, où le démon c'est en quelque sorte le principe divin ou l'ange gardien, ou encore cette humilité de Socrate qui va répétant que nul ne saurait atteindre par lui-même au vrai, qui ne l'ait cherché avec un autre, à travers l'autre, dans ce dialogue d'intelligence et d'amour, sans lequel aucun d'entre nous ne saurait parvenir à la vérité.
Professeur Magnard, merci. On sent que la culture hellénique nous a amené aussi tout un vocabulaire qui a permis de poser tous les dogmes et de poser tous les fondements de la foi avec des mots et des concepts. Est-ce que tout cela qui a parlé pendant des siècles à l'Église depuis ses débuts reste toujours vivant avec une perte de culture. Est-ce que, en quelque sorte, il reste une culture chrétienne, et sur quelle base peut-on imaginer l'annonce de l'Évangile aujourd'hui?
C'est une question extrêmement délicate. Il est évidemment facile, entre humanistes, d'échanger des réflexions chrétiennes, car, disons, même lorsque nous ne sommes pas tous chrétiens, nous humanistes, nous avons là une assurance que l'autre nous comprendra. Puis-je me permettre de rapporter une conversation que j'ai eue pas plus tard que samedi dernier avec un ami musulman. La conversation était assez facile, car elle avait ses médiateurs. Nous parlâmes de littérature. Nous parlâmes des grandes œuvres du passé et du présent. Et parce que nous avions en commun et Corneille et Racine, et Baudelaire et Victor Hugo, alors il ne nous fut pas impossible d'aller jusqu'à faire dialoguer Évangile et Coran. Mais j'avais tellement le sentiment que c'était par médiateur interposé que s'effectuait cette communication. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant un monde où la culture classique est en très nette régression. L'école, faut-il le dire, est sinistrée. On n'y enseigne même plus l'orthographe ni la grammaire. A fortiori, Corneille et Racine sont bien loin. Que dire de Cicéron et d'Homère? Ce sont des noms qui n'ont même plus aucune résonance dans les jeunes esprits. Je ne parle pas de la langue, qui était quand même, pour nous, le truchement essentiel de la pensée religieuse. Le latin, j'entends, qui était encore, il y a 40 ans, le latin d'église, le latin liturgique, et le grec, parfois, pour les plus heureux, qui pouvaient aller jusque-là. Or, lorsque nous voyons l'absence de culture qui caractérise aujourd'hui notre monde, nous sommes obligés de faire un constat. Et le constat est en gros le suivant. La culture est en panne. La culture est en panne, pourquoi? Parce que les trois agents porteurs de la culture pendant des siècles sont en crise. Ces agents, ils s'appellent d'abord la famille, qui n'auront plus son rôle éducatif. Ensuite, l'école, dont je viens d'indiquer la faillite. Enfin, l'Église, qui dans une sorte de repli honteux sur cette décadence, ne fait plus entendre sa voix. Or, si les trois agents porteurs ne remplissent plus leur office, alors, comment peut-il y avoir une culture? La culture, elle tient en un mot. Ce mot, c'est un mot latin, translatio, transmission. On transmet. Et ce pourquoi j'ai accordé tant d'importance au latin et au grec, c'est parce qu'ils ont été les vecteurs de la transmission pendant 20 siècles. Les vecteurs de la transmission, puisque cette transmission s'est faite selon la langue d'Athènes et selon la langue de Rome, mais aussi selon des modules ou des modes de pensée empruntés à Athènes et selon des modes d'action politique, juridique, institutionnelle empruntés à Rome. À partir du moment où, disons, on ne dispose plus de cette culture, il est bien évident que l'on est bien obligé de constater qu'il n'y a plus de translatio, qu'il n'y a plus de transmission de quoi que ce soit. Ce qui veut dire que la jeunesse d'aujourd'hui est de plein pied avec un évangile qui n'a rien perdu de sa fraîcheur, de sa beauté, de sa vertu. Seulement la question que je me pose, c'est la suivante. Pourquoi a-t-il fallu, pendant 20 siècles, le truchement et de Rome et d'Athènes pour que le sens de la parole du Christ parvienne jusqu'à nous? Pourquoi a-t-il fallu que nous soyons sensibilisés à l'amour du Christ par la Communis Humanitas de Cicéron ou encore par l'amour de Socrate? Pourquoi a-t-il fallu passer par ces vecteurs païens pour que nous puissions aller jusqu'à la source chrétienne? Eh bien, à cette question, je crois que j'ai répondu en disant ce qu'avait été pour moi et Rome et Athènes. Mais cette question ne fait que en susciter une autre, et cette autre, je ne vois pas quelle réponse elle pourrait avoir. Quelle culture de rechange allons-nous donner aux enfants de l'Europe de demain? Et cette question, alors, rebondit sur une autre, sur le débat si actuel et si poignant des racines chrétiennes de l'Europe. Cette Europe risque fort de n'être qu'une Babylone où nul ne pourra s'entendre, si elle refuse les truchements de la communication que furent les grandes cultures classiques, et si elle refuse le vecteur de la culture traditionnelle dont je viens de montrer qu'il nous reconduisait inévitablement à Rome et à Athènes.
Professeur Magnard, grand merci.